Bonsoir. Donc moi je suis Marie-Josella, mais en fait je suis un petit peu l'interface ce soir entre la demande d'un petit groupe qui s'occupe de ces questions sur les mardis des sociétés et l'agriculture, parce que c'est un peu comme ça qu'on est venu chercher des auteurs qui connaissent bien l'agriculture, donc je pourrais nous aider à construire ces trois soirées. Donc j'ai un petit peu contribué finalement, notamment à la recherche des témoins. Pas que. Donc moi, je suis formatrice à Montoire, sur le Loir, au CFA agricole. J'ai des BTS AXE. Mes grands-parents ici, hein, qui sont contributeurs avec moi en ce moment. Et puis, je suis en même temps aussi mariée à un agriculteur dans la petite Beauce, ça fait 6 ans en grand culture. Donc, cette première soirée, c'est sur l'agriculture, notamment du Loir-et-Cher, avec la question ou l'observation d'une diversité à préserver. Et c'est pour ça que du coup, j'ai invité trois agriculteurs de trois coins du Loir-et-Cher différents. Donc, on va commencer peut-être par justement une présentation de chacun d'eux pour qu'ils nous disent d'où ils viennent. Pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont là. C'est important dans leur métier. Voilà, ce thème-là de terre nourricière, regard d'espérance sur nos terres nourricières, nous leur dit. Je veux juste aussi être utile pour les début. Jean-Henri-Jean l'a évoqué, les agriculteurs sont devenus très très peu nombreux, ils représentent entre 1 et 2% des actifs, c'est vraiment pas beaucoup, avec effectivement la société qui a des attentes fortes sur eux, sur l'alimentation, sur le paysage, sur l'alimentation saine et plein d'autres choses encore, une population qui vit principalement en ville. Et ce nombre d'agriculteurs est amené encore à diminuer de façon assez importante, puisque plus de la moitié des agriculteurs aujourd'hui, et c'est vrai dans leur chair, ont plus de 50 ans, et voire un quart, il y a plus de 60 ans. Donc le paysage agricole, il est encore amené à se transformer beaucoup. C'est le petit préambule que je voudrais donner. Maintenant, je vais laisser chacun de nos trois agriculteurs et agricultrices se présenter et nous laisser. Voilà, parlez de qui vous êtes, où vous venez, pourquoi vous êtes agriculteur, qu'est-ce que vous faites sur vos exploitations, voilà. Et comment vous cultivez. Qui commence? Fanny?
Merci beaucoup, on m'entend. Bonsoir à tous. Je m'appelle Valérie Bruère, j'ai 51 ans, je suis agricultrice à la commune de Coupe-la-Nouvelle, à Saint-Gemme. C'est 25 km au nord de Bourg. Je suis mariée déjà depuis 25 ans. J'ai deux enfants, une fille qui a fait 24 ans, qui a fait des études agricoles, et qui travaille dans un centre comptable, elle est conseillère d'entreprise dans un centre comptable agricole. Et mon fils fait des études, il a 21 ans, il fait des études d'ingénieur dans l'industrie. Mes parents étaient agriculteurs, il y avait une exploitation de céréales et d'élevage, c'est des vaches laitières jusque dans les années 80. Ensuite, ils ont aussi eu un élevage de volailles. Donc, naturellement, j'ai voulu faire une école agricole parce que je suis fille unique. Je suivais mon père un peu partout, mais j'aimais beaucoup travailler avec lui. Donc, ça a été très naturel pour moi de reprendre la suite de mes parents, en fait. Donc, je suis allée à l'école agricole. Ensuite, j'ai eu un diplôme en BEP. Je suis allée travailler 6 mois aux États-Unis dans une exploitation où il y avait de l'élevage de volailles. Là, ça m'a apporté beaucoup, une ouverture d'esprit. Ensuite, je suis revenue chez mes parents. Et avant de reprendre l'exploitation, j'ai travaillé 3 ans dans la grande distribution. Mon expérience aussi enrichissante. Ensuite, je me suis mariée. Et avec mon mari, en parallèle, était en train de reprendre l'exploitation familiale de son côté, et qui était à 4 km de chez moi. En fait. Ils sont voisins. Donc, actuellement, aujourd'hui, nos deux exploitations n'en ont toujours qu'une. Donc, nous sommes sur une exploitation de céréales et d'élevage de volailles. Nous avons un salarié depuis déjà 17 ans. Et en ce moment, nous avons une apprentie qui vient à l'école de Montoire. Donc, l'exploitation est céréalière. Nous avons c'est mon mari qui s'occupe plus du côté céréales. Du blé, de l'orge, colza, tournesol, maïs. Et d'un autre côté, nous avons l'élevage de volailles. Donc, c'est moi qui m'occupe de l'élevage de volailles. Donc, j'ai 2 bâtiments de 1000 m² de volailles standard des dindes pour faire de la viande pour la découpe. Ce qu'on peut trouver dans le supermarché, des escalopes, des cuisses de dinde, des gros dindons qui partent, qui font 16 kilos. Et j'ai aussi un élevage de poulets label rouge de l'Orléanais. Donc, 2 bâtiments de 400 m² sur un parc de 2 hectares. Donc, que nous avons arboré, mon mari avait déjà planté des haies, il a planté 1 km de haies à peu près en tout. Et là, on a encore le projet de planter une haie. Et on plante aussi beaucoup d'arbres fruitiers sur ces 2 parcs. Depuis 3 ans, j'ai voulu apprendre quelque chose de nouveau, justement pour répondre aux critiques des médias sur... sur l'agriculture. On entendait beaucoup à la radio les agriculteurs tueurs d'abeilles, les agriculteurs polluent. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas m'intéresser à l'apiculture, aux abeilles. Donc, j'ai commencé à faire une formation. Et en fait, je me suis prise de passion pour les abeilles. C'est très, très intéressant. C'est vraiment très motivant. Donc depuis, je vends un petit peu de miel. Enfin, je vends du miel. Je ne pensais pas que j'allais produire. Et en fait, j'en produis, donc ça, c'est formidable. Et ça m'apporte beaucoup parce que du coup, je rencontre beaucoup de gens maintenant qui viennent m'acheter mon miel. Et je peux discuter avec eux de mon métier, de ce qu'on fait. Mon mari travaille en céréales conventionnelles. Donc, je peux expliquer que oui, en petite bosse, dans une structure conventionnelle, on peut récolter du miel et on ne tue pas les abeilles. Et même cet été, par exemple, on a eu un printemps assez difficile parce que les arbres fruitiers, je ne sais pas si vous avez eu des fruits, mais il y a beaucoup d'arbres fruitiers congelés. Donc, mes abeilles, elles n'avaient pas de quoi se nourrir. Ben, heureusement qu'il y avait le colza des agriculteurs, j'ai pu avoir du miel grâce à ça. Et cet été aussi, beaucoup de pluie, les abeilles pouvaient sortir que quelques heures dans la journée. Elles n'avaient pas non plus de... Enfin, c'était compliqué. Et heureusement qu'il y avait des agriculteurs qui avaient du tournesol. Ça m'a permis de récolter du miel. Donc voilà, la diversité pour nous, elle est importante parce que là, ça nous ouvre beaucoup d'horizons. Et puis, elle est, je pense qu'elle est nécessaire et elle est réelle, je pense, sur notre secteur.
Excusez-moi, je ne suis peut-être pas très à l'aise pour parler en public.
Merci beaucoup. Enfin, je crois qu'on a déjà eu une.
Je pense qu'on a déjà eu une belle présentation et peut-être même que ça appelle à certaines questions. Mais je propose effectivement qu'on ait d'abord une présentation aussi des deux autres agriculteurs, voilà, qui viennent de secteurs un peu différents et qui ont aussi des parcours un peu différents. Alors, est-ce que vous continuez par les films?
Oui, c'est
vrai. Honneur aux dames.
Bonsoir tout le monde. Donc, Delphine Descamps, moi je suis également agricultrice avec mon mari à Savigny-sur-Braise, près de Vendôme, pour mon Vendôme. Donc, je suis plus que 48 ans. Ça fait 22 ans que je suis mariée et 18 ans. Qu'avec mes maris, on a fait le choix donc, de tout quitter. Hein, donc, on est tous les deux originaires du département du Nord. Donc, on s'est rencontrés quand on faisait nos études. Nos études supérieures, on a fait toutes les études supérieures à Lille. On s'y est rencontrés, on a commencé notre activité en tant que salarié. Et à un moment, on s'est dit que pour un choix de vie, un choix du couple, un choix de famille, On avait un deuxième enfant qui arrivait. On a décidé donc de tenter l'aventure de s'installer agriculteur. Donc le département du Nord est un département difficile d'accès, hein, où encore beaucoup d'agriculteurs et de fonciers peu accessibles et très chers. Donc on a fait le choix de chercher. On a mis 2 ans pour trouver notre coin de bonheur en Loire-et-Cher. On ne connaissait pas du tout le Loire-et-Cher. Les départements particuliers, c'est bizarre. C'est sous Paris, mais on ne s'est pas trouvé. Voilà, donc on est arrivé peut-être un petit peu par hasard dans le Verge. On a pris une exploitation qui existait telle qu'elle. C'était un père, une mère et son fils. Et donc là, on a juste mis les pieds dans le bot. On a pris donc l'élevage laitier qui était en place. C'est un élevage laitier. Pourquoi? Parce que ça permettait. Donc, et par ici, les élevages laitiers sont polyculteurs et bon. Donc, il y a de la culture et de l'élevage. C'était, selon nous, vraiment le plus logique pour le système d'exploitation qu'on voulait, c'est-à-dire une activité masculine, une activité féminine, le mélange des deux, suffisamment d'activités pour pouvoir vivre à deux et vivre que de ça, hein, puisque donc on abandonnait la sécurité de l'emploi, finalement salarié, pour partir de rien. On a dû tout acheter, hein. C'était ce qu'on appelle hors cadre familial. La femme n'appartenait pas du tout à quelqu'un de la famille, c'était vraiment étranger. Et on a été donc étranger. Et donc tout de suite, en arrivant, l'important est de réussir à s'intégrer, réussir à faire des choses. Et donc, comme nous vivions, travaillons à deux sur la ferme, très rapidement, on s'est senti appelé à s'ouvrir vers l'extérieur, à s'ouvrir vers nos voisins et à faire énormément de choses avec tout notre entourage. Et c'est vrai qu'en élevage, ce qui nous tient vraiment au trip, c'est le travail en collectif. Donc, très rapidement, on est arrivé en 2004. On a vite été dans les réseaux de CUMA. Donc, le CUMA, c'est du matériel qu'on a à plusieurs, hein, qu'on a ensemble. On a été à l'initiative forte du CUMA avec du personnel. Hein, donc, on a tous, à 9 agriculteurs, on a acheté la même machine, un salarié personnel pour faire le travail de nourriture de nos animaux. Et petit à petit, voilà, on a trouvé. Alors, source d'intégration, certes, source d'épanouissement et de travailler ensemble avec nos voisins autour de toutes ces actions-là, jusqu'à arriver dernièrement à mettre en place un éthaniseur collectif. Donc, toujours pareil, notre problématique entre voisins de savoir quoi faire de nos déchets qui sont nos effluents d'élevage, nos litières, une des solutions, en faire un produit créer un métalliseur, faire de la valeur ajoutée, faire de l'activité économique sur le territoire, faire vivre du personnel. Voilà, alors nous n'avons pas de salariés sur la ferme, nous travaillons en couple, mais que ce soit au travers de la CUMA, au travers du métalliseur qu'on a créé, etc., je fais 9 fiches de paye tous les mois. Toutes ces activités, il faut vraiment se rendre compte qu'autour de l'agriculture, et de quand on cherche et quand on se prend la tête pour créer, découvrir, faire de la valeur, on arrive à le faire, quoi. Et je pense quand même que 9 emplois supplémentaires sur cette ligne, sans être touché, c'est pas mal. Et c'est grâce à tous nos voisins qui se sont dit on va faire des choses, on va se tous ensemble trouver des solutions pour que ça nous apporte des solutions à nos problématiques et pour que ça continue de faire vivre et de donner de l'attractivité à nos métiers. Parce que c'est vrai qu'on s'est assez vite rendu compte, moi je parle surtout de l'élevage et ce qui me concerne, c'est de l'astreinte. Donc l'astreinte, c'est vraiment tous les jours, hein, samedi, dimanche, tous les jours, l'élevage laitier, c'est des naissances quand on ne les attend pas forcément, c'est des amis, c'est des choses comme ça, c'est une astreinte. Il faut se la rendre un peu agréable autant que possible et donc rester un groupe suffisamment important pour se partager les mêmes problématiques et réussir à faire aussi toutes les parties les plus désagréables de notre métier puissent trouver un service pour le faire à notre place, pour qu'on conserve que le côté plus agréable de notre métier se recentre sur notre profession d'éleveur. Et j'ai eu envie de rester éleveur, surtout parce que, entre autres explications, peut-être une forme de disparition du monde d'agriculteurs, mais aussi peut-être d'aller vers des simplifications, des simplicismes, on pourrait dire, qui abandonnent la valeur ajoutée et qui font disparaître un certain nombre d'agriculteurs. Voilà pour mon parcours. Personnellement, je me suis également engagée, que ce soit dans la commune, que ce soit dans la profession agricole. Je sais que ceux qui se sont également engagés avant moi, parce que là, les voies étaient existantes, sont désormais accessibles aux femmes. Et j'encourage toutes mes collègues, et je sais si tu en as, même des jeunes, à oser être agricultrice, parce que c'est aussi un beau métier. Là, vous direz des questions, s'il
vous plaît. Oui, Bernard, j'ai 34 ans. Je suis agriculteur à Contres, sud du département, en production maraîchère et semencière. Je suis marié avec trois enfants de 8, 6 et 4 ans. Mon épouse, Élise, n'était pas ancrée dans l'agriculture. Elle m'a rejoint sur l'exploitation il y a maintenant 2 ans. Peut-être au début par contrainte et par service pour moi qui démarrais dans l'entrepreneuriat. Aussi avec ça peut convenir avec de jeunes enfants avec parfois un peu de temps libre ou d'aménagement d'horaire qui peuvent se faire. Alors je suis issu d'une famille d'agriculteurs, la ferme que je cultive est celle de mes parents. Bon, j'étais toujours un peu prédestiné à l'agriculture, contrairement peut-être à mes deux frères qui ont fait, eux, autre chose. J'ai fait un cycle général ici à Blois et après je suis parti me spécialiser en BTS agricole à Angers avec une formation de commerce et de gestion ensuite. Actuellement, donc agriculteur sur une exploitation familiale que j'ai repris au départ. Je me suis associé avec mon père en 2014. J'ai été salarié 3 ans, tout de suite à la sortie de l'école. Salarié 3 ans. J'avais fait une formation pendant ce temps de salariat dans le domaine caprin, en ayant éventuellement un projet caprin, étant donné que c'est une zone forte de bassin de production. ayant une attirance pour l'élevage. Et j'ai pris les parts de mon père en mettant le projet caprin un peu de ma mère en mettant le projet caprin un peu de côté. À ce moment, j'étais associé pendant 4 ans avec mon père, ensuite, et en 2018, j'ai repris l'exploitation seule, et c'est là où ma femme m'a rejoint. On cultive 110 hectares de terre en production donc légumière et semencière. Donc on fait des fraises, des poireaux, des maïs, de la production de semencière de maïs, et des cornichons depuis 2 ans. Pour les fraises, on les vend en coopérative, en organisation de producteurs. On a l'obligation de fournir l'intégralité de notre production à cette organisation de collectif de vente. Donc, c'est un système assez particulier de vente aux enchères dégressives, mais qui fonctionne et qui vive les exploitants, enfin, ses adhérents. Sur des circuits de distribution qui vont tout type de distribution, donc vont les légumes français, donc 60% en GMS et le reste sur le marché de Rungis, le marché restauration collective, marché de proximité aussi. Pour les semences, on travaille directement avec des semenciers au sein d'une coopérative située à Blois. Pour les poireaux, on travaille avec un agriculteur local, enfin voisin, avec qui on vend ensemble, et les cornichons avec un industriel qui a eu la demande, enfin qui a fait cette demande il y a 3 ou 4 ans, et avec qui on a une dynamique collective avec d'autres agriculteurs. Qui dit maraîchage et semences dit salariés saisonniers. Donc, on embauche une trentaine de salariés saisonniers pendant six mois de l'année. On travaille beaucoup en organisation de producteurs et toutes ces productions qu'on fait sur la ferme sont des productions de bassins de production, c'est-à-dire que ce sont les mêmes productions que font également mes voisins. Et ça, j'y attache je vois ça comme une force à faire perdurer, étant donné que monter un bassin, une filière, c'est parfois compliqué. Ça demande du temps et des années, et du coup, le faire perdurer, j'aime bien participer à ça. Actuellement, je suis en phase d'association avec mon frère. J'ai 2 autres frères et un qui, après 10 ans de travail à l'extérieur, souhaite revenir sur l'exploitation. À la base, j'avais fait la demande de recherche d'association une fois mon père parti en retraite. Et c'est là que mon frère m'a dit, écoute, moi, ça peut être un défi à relever. Donc, on est en phase d'installation. Et lui, pour heure d'association, pour 2023, il est actuellement salarié sur l'exploitation. Dans le but de partager des décisions, de se libérer aussi du temps en famille et dans des organisations extérieures, tout en gardant un modèle durable, d'une exploitation qui puisse être transmissible en gardant une taille humaine, mais tout en répondant à un besoin aujourd'hui de terres qui sont de moins en moins cultivées dans notre secteur, donc participer à la continuité de l'exploitation de ces terres et puis de dynamisme local. Donc, comme projet, son installation mènera sûrement soit des fraises hors sol, en jardin suspendu, pour continuer d'avancer dans la technique et dans ce que nous faisons habituellement, ou alors peut-être de refaire renaître le projet caprin en production laitière, étant donné que c'est aussi une zone de production de fromage de chèvre, le sel sur chèvre, et qu'il y a un intérêt, il y a une demande des laiteries pour produire. Alors ça, la production caprine laitière, ce sera un tournant sur l'exploitation, donc du coup, ce serait différent de partir sur des fraises hors sol qui vont un peu dans la continuité de ce qu'on fait. Voilà pour la présentation.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes...
Micro.
Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on peut dire... Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes heureux dans votre métier?
Oui, je suis heureuse de faire ce que je fais, je ne fais pas le choix. Après, c'est parfois difficile. Maintenant, je ne fais pas le choix. Je suis heureuse dans ce que je fais. J'aime mon travail. J'aime ce que je fais, j'aime les animaux et j'aime la terre.
Alors moi aussi, je suis très heureux dans ce que je fais. Toujours souhaité faire ça, alors avec des visions qui ont évolué, mais toujours dans l'idée de développer et de maintenir une région agricole dynamique. Et ça en prend le tournant sur notre exploitation, lié au fait que mon frère soit attiré aussi par la production. Sacré projet, je vais rester dans ce que je fais et non, au contraire, il souhaite revenir. Donc, ça, c'est aussi une fierté.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'être heureux dans son. Qu'est-ce qu'avoir atteint le bonheur, c'est quoi? Bon, une fois que ma vie active est terminée, j'espère que je vais continuer, hein, toujours à la recherche. Moi, ce que je veux vraiment faire comprendre, c'est que ça, quand on est agriculteur, on peut presque tout faire. Certes, on a la santé du quotidien, tous les jours, on sent un petit peu ce qui va se passer, mais tous les jours, on est au niveau. D'abord, on est au cœur de la nature, ce qui est formidable, parce que vraiment, tous les matins, on a le lever de soleil, on ne prend pas la voiture pour aller travailler, c'est vraiment des choses extrêmement agréables. On est chez soi, on mange chez soi, on a le rythme de vie, certes imposé par les animaux, mais on a le rythme de vie qu'on peut quand même s'autoriser avec ses points d'accélération et ses points de ralenti. On peut s'occuper de ses enfants. Donc, c'était vraiment ce que je voulais, parce qu'effectivement, à un moment, si je prends mon parcours professionnel, c'est vers 30 ans qu'on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met les enfants chez la nourrice tous les jours? Non. Et voilà, donc moi, notamment le dernier, je l'ai entièrement... Enfin, j'ai jamais coupé la nourrice, par exemple. Voilà. C'est moi qui m'en suis occupée jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Voilà, mais je pense, voilà, ça fait aussi partie des choses... qui change notre façon de voir les choses de quand on est étudiant et quand on imagine la vie demain, la vie des enfants, je ne sais pas comment dire, etc. Ça nous permet, alors, moi en tant que femme, de savoir, je ne suis pas que cantonnée à la maison. L'image que l'agricultrice, c'est la compta, la cuisine, enfin, c'est vraiment. Enfin, si on a compris, c'est quand même tout ça, même si je fais la compta et la cuisine aussi. Voilà, c'est. Il n'empêche que c'est fait dans l'harmonie de la vie quotidienne, dans l'harmonie du territoire. Je suis au conseil municipal, et c'est un côté très intéressant. J'ai eu l'occasion aussi d'être dans les écoles et donc les écoles, mais je m'occupe de la paroisse aussi. Voilà, donc c'est aussi toutes ces choses-là, on peut les faire parce qu'on sait à peu près maîtriser notre emploi du temps. Et ça, je crois qu'à l'époque actuelle, pouvoir interférer et maîtriser en partie son emploi du temps, malgré les astreintes, on le maîtrise malgré tout. Ça, je crois que ça fait partie du monde.
Je continue, j'ai deux, trois questions et après, je pense que vous verra. Valérie, tu as dit que tu avais mis en place l'activité miel. Ah, qu'est-ce que...
Valérie, tu as dit que tu avais mis en place l'activité miel. D'une part, pour montrer que en Beauce, on ne tue pas forcément les abeilles. Et aussi par souci, finalement, de communiquer aussi avec les autres personnes et faire connaître ton métier.
Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur expliques? Est-ce que tous les trois, d'ailleurs, c'est une question là, que je vais vous poser maintenant à tous les trois, vous êtes tous dans des productions dites conventionnelles. Est-ce que derrière le conventionnel que vous pratiquez, vous avez le sentiment de pratiquer une agriculture de qualité?
Oui, alors, les abeilles, c'est vraiment un titre amateur. Je l'ai vraiment commencé à le faire pour découvrir, pour apprendre. Mon but, c'était d'apprendre. Ce n'était pas du tout produire, cette fois. Notre métier, c'est produire, mais les abeilles, pour moi, c'était apprendre. Et ensuite, j'ai réalisé que je pouvais produire. Et ensuite, j'ai réalisé que je pouvais vendre. Donc là, ça m'a... c'était pas le premier but de vendre. En fait, c'est ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté le fait d'échanger beaucoup avec les gens sur justement ce que je faisais. C'était la première fois que j'avais à m'expliquer sur ce que je faisais et ça m'a beaucoup apporté. En fait, je vois qu'on a... il est vraiment nécessaire qu'on partage ce que l'on fait, qu'on explique aux gens qui n'ont plus trop de relations avec ce monde rural. Il faut leur expliquer, il faut être un petit peu pédagogue. Alors, c'est pas toujours évident. C'est ce que ça m'a apporté. Après, la question c'était est-ce que oui? Alors, oui, je produis. Oui. Alors, je fais je parlais pour l'élevage que je fais, donc mes volailles, des volailles standards. J'ai des volailles standards, des dindes qui ne vont pas dehors. Mais elles sont de qualité. J'en consomme, j'en ai toujours consommé, mais elles sont très bonnes. Et à côté, j'ai fait des poulets label rouge. Qui est aussi de qualité, je vais dire que gustativement, il est de qualité supérieure qu'un poulet standard. Mais le poulet français standard que l'on fait, que mes parents faisaient, il était aussi de qualité, sanitaire, peut-être inférieur au niveau gustatif, mais de qualité sanitaire. Et j'ai toujours consommé tout ce qu'on produit, on le consomme. Et on fait attention à ce que l'on fait, enfin, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, voilà, je vous conseille d'acheter local et de discuter avec les gens qui produisent pour qu'ils vous expliquent comment ils fonctionnent.
Alors, oui, par rapport à la question d'une agriculture de qualité, ben, oui, j'en suis convaincu. De par ce qu'on vit tous les jours, en fait, quand on vend sur des circuits de grande distribution au sein de coopératives, on a des exigences de qualité à répondre et des normes à maîtriser et à mettre en place tous les ans qui évoluent. Donc, on va avec cette évolution, tout comme ce qui a été dit précédemment, je consomme aussi. Tout ce qu'on produit. Et par rapport à ces exigences qualité, on a des industriels qui reviennent vers nous pour reproduire, par exemple, si on prend l'exemple du cornichon, reproduire du cornichon français, et ils savent venir nous voir, nous, agriculteurs, pour leur produire. Et donc, une agriculture de qualité dont on est fier aussi, parce que... Après être parti à l'étranger, on essaye de revenir en France et produire français. Pas forcément en vendant directement aux consommateurs, mais en le produisant pour qu'il soit vendu en France et produit en France. Ça oui. Et puis, de voir que ça fait participer au dynamisme rural et local, parce que ça crée des emplois dans des usines qui sont à proximité. L'usine est située à Bourré, donc c'est près de Montrichard, et ça fait des emplois, tout comme le reste. Comme il y a des fraises qui sont vendues, il faut bien les transporter. Donc il y a des entreprises de transport qui sont montées, il y a des entreprises de conditionnement, donc ça maintient de la vie rurale et puis une qualité de vie rurale. Les gens sont en rural, c'est une belle qualité aussi.
Pour illustrer, moi aussi, je Le lien que nous produisons sur la ferme part dans ce qu'on appelle la grande filière. Donc, nous, ça part exclusivement vers la maîtrise fromagerie belle. Hein, belle, c'est la vache Kiri, belle, le Cousteron, le Kiri. Et par exemple, le Kiri, hein, donc c'est donc un industriel, certes, spécialisé dans la portion, hein, donc tout ce qui est emballé, emballage aluminium. La petite histoire, c'est la vache Kiri, le seul fromage en. Très, très consommé en Afrique parce qu'il a besoin de conserver dans un frigo, par exemple. Donc, il apporte quand même une source de calcium pour les gens qui n'ont pas de frigo, c'est pour les jeunes. Et le kiri est très recherché par les Japonais pour en faire leur sushi. Ils font des sushis à la base de kiri, et ils adorent le kiri, ils l'achètent en grand conditionnement, en gros cube. Mais il y a une usine là-bas au Japon qui après fait une petite portion. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, le savoir-faire français, la qualité française, nécessite aussi des fois de se connaître à l'extérieur. Si je prends la production laitière, il y a au moins 40% de ce qui est produit en France qui est valorisé hors de France. Et s'il n'y avait pas la valorisation hors de France, ça voudrait dire qu'il y a 40% en trop. Donc, il faut bien comprendre aussi que. Il est important que les filières existent. Elles peuvent être effectivement courtes pour un usage local, elles peuvent être semi-courtes et elles peuvent être longues parce que chacune a quand même un intérêt et est source de génération d'économie derrière. Effectivement, vous faites. Donc, moi, vous ne trouverez pas effectivement le lait que je produis directement. Au marché de Vendôme, effectivement, mais comme vient d'expliquer lui, tout ce qui concerne l'emploi autour donc, des transporteurs et tout, et faire fonctionner une usine nécessite d'avoir l'ensemble de ces marchés pour les faire fonctionner en entier, parce que chacun de ces marchés, bout à bout, aboutit à faire fonctionner l'ensemble de la filière. Merci. Je crois qu'il est très important de comprendre ça. Je ne pense pas qu'il y a une forme de commercialisation absolument complètement vertueuse et unique qui n'est pas du tout. Je crois que comme dans beaucoup de choses, c'est une synergie et une complémentarité qui fait la beauté d'une filière et la qualité de cette filière. Parce que si on n'avait pas un volume de production suffisant, on n'aurait pas forcément non plus les capacités d'investir dans du confort de bâtiment, dans le bien-être animal, dans le bien-être des salariés qui travaillent avec ces animaux, dans un tas de choses qui font que l'élevage français actuel a l'image qu'il a, c'est-à-dire que ce ne sont pas des grosses usines à l'image de l'Amérique ou de l'Amérique du Sud. Ce ne sont pas non plus des choses passéistes où effectivement les animaux étaient à la tâche ou étaient dans des conditions pas spécialement tolérables pour eux. On est actuellement dans des systèmes d'élevage européens, mais surtout à la française, harmonieux dans leur filière et dans leur territoire. Voilà comment c'est la qualité de ce qu'on produit.
Alors maintenant, je vais vous emmener un petit peu sur les évolutions. Et puis après, je pense qu'on pourra passer la parole à toutes vos questions. Sur les évolutions, je disais que nous sommes dans une phase où, enfin, de toute façon, depuis l'après-guerre, c'est comme ça. Jean-Henri Jean l'a dit depuis après-guerre. Voilà, pratiquement tout le monde avait de la famille dans l'agriculture. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus rare. Le dernier recensement agricole de 2020, le Loir-et-Cher, c'est 2800 exploitations agricoles, mais c'est 18% de moins qu'en 2010. Et en 2010, c'était déjà quasiment autour de 20% de moins qu'en 2000. Ça veut dire que le nombre d'exploitations, quand même, diminue beaucoup. Forcément, du coup, la taille des exploitations s'agrandit en moyenne, parce que de toute façon, la surface, elle, cultivée, reste à peu près la même. C'est en gros 50% du territoire qui est cultivé, en tout cas pour le Loir-et-Cher, c'est à peu près ça. Et ça correspond assez bien à la moyenne de la région centre et je pense aussi de la moyenne nationale. Ça veut dire que les métiers évoluent aussi beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces changements, de ces évolutions, et nous parler un petit peu de la manière dont vous voyez l'avenir face à cette diminution du nombre d'agriculteurs?
Je crois qu'il y a eu quand même toute une époque où très logiquement le nombre d'agriculteurs a diminué lié aux améliorations technologiques et lié à l'arrivée de la mécanisation. Enfin, je pense que vous l'avez tous connu, les années d'après-guerre, etc. Voilà. C'est vrai que par contre, on peut dire qu'on est arrivé à un sommet de la mécanisation, même si on voit arriver maintenant carrément les tracteurs autonomes, des systèmes où effectivement on n'aura plus besoin forcément de l'être humain dans une machine. Hein, c'est une réalité, c'est plus la science-fiction, hein, des tracteurs qui savent avancer tout seul comme des voitures. Hein, et c'est une réalité effectivement, les vaches laitières qui se font traire tout seul. C'est une réalité depuis une bonne dizaine d'années. Effectivement. Est-ce à dire qu'on n'a pas besoin d'agriculteurs? Effectivement, c'est différent. Je crois que ça fait appel effectivement à un métier extrêmement différent, beaucoup plus axé sur la gestion d'entreprise. Et on le voit à l'heure actuelle, les matières premières évoluent énormément. Il faut que ce soit des vrais chefs d'entreprise capables d'avoir une politique d'achat, d'avoir une politique de vente, d'avoir une politique d'investissement et capables effectivement de sentir quel sera l'avenir. Et c'est effectivement là que c'est peut-être le plus difficile. Valérie parlait tout à l'heure effectivement de tout ce qui concerne un peu l'image qu'on peut avoir de l'agriculture, les agri-bashing, les demandes de la société. Toute la difficulté sera effectivement de savoir quelle est la vraie demande de la société et la vraie demande durable. Parce qu'il faut bien comprendre que malgré toutes les machines, tout ce qu'on peut imaginer, les cycles agricoles restent des cycles longs, restent le temps long, la vertu du temps long. Il faut une année, le blé c'est une année de cycle culturel. Faire une vache laitière entre la naissance du veau et puis avoir du lait il y a presque 3 ans. Je ne vous parle même pas quand on plante un arbre ou quand on plante une vigne, le temps avant que ça se mette à produire, il faut avoir choisi le bon cépage autant d'années avant, il faut avoir choisi le bon arbre parce que le réchauffement climatique fallait y avoir pensé. Voilà. Alors, effectivement, l'agriculteur de demain, peut-être que c'est pour ça que ça fait peur, ne sera plus sur des voies charrues, enfin, ne sera plus sur des long fleuve tranquille, comme on a pu lui faire croire dans les années d'après-guerre, où il suffisait de produire et encore. Je pense qu'effectivement, maintenant, les chemins vont être assez différents. Je rejoins ce que disait Louis tout à l'heure sur le fait qu'il fallait encore être effectivement des groupes pour être à la bien même problématique dans un coin, mais je pense que de plus en plus, on sera un peu différents les uns des autres. Parce qu'une exploitation agricole, c'est un contexte pédoclimatique, pardon de dire des gros mots, enfin, je veux dire, c'est lié à un type de sol à un endroit, avec un type de d'aménagement autour, hein, donc essentiellement le type de terre et l'aménagement de la géographie qui est autour, est-ce qu'il y a l'eau, est-ce qu'il y a pas l'eau, est-ce qu'il y a des plantes, est-ce qu'il y a du sable, des cailloux, des pierres, enfin, voilà, toutes ces choses-là qui vont faire que ce sera des typologies très différentes. Les gens qui vont conseiller, orienter les agriculteurs devraient être de plus en plus précis et pointus. Et l'agriculteur lui-même devra avoir la vraie notion de chef d'entreprise et donc avec une forme certainement d'instabilité plus forte dans son avenir et donc d'avoir à assurer et à assumer ses choix, très certainement. Voilà, on sera, je pense, à l'opposé d'une standardisation de l'agriculture.
Alors, en termes d'évolution, on voit les exploitations qui ont tendance à peut-être grandir parfois ou pas. Forcément, il y a aussi dans l'agriculture un besoin d'attirer des gens vers un système qui répond à des attentes sociétales également. Donc il y a l'attente des consommateurs et il y a l'attente sociétale qu'il faut pouvoir suivre. Je prends mon exemple concret. Depuis le départ en retraite de mon père, avant on était associé depuis son départ en retraite, finalement, avec une activité légumière, une activité qui prend du temps toute l'année, on a des poireaux de l'hiver, et ben les week-ends sont parfois un peu inexistants. Et ma femme m'avait dit, c'est gentil avec ta femme, mais à un moment, il va peut-être falloir qu'on arrive à voir nos amis, parce que nos amis, ils ont des emplois qui répondent à ces attentes sociétales. Et là, ça m'avait un peu frappé, et je me suis dit, oula, je sortais d'école en disant, on va réussir à révolutionner l'agriculture, on sort d'une école, on va faire plein de choses, et on va répondre à ces attentes-là. Et je voyais que finalement, étant entrepreneur, on développe des projets, mais on va un peu la tête dans le guidon et on va un peu tout droit et on ne regarde pas trop autour, et notamment dans sa vie familiale ou quoi, on fait parfois des concessions. Mais ma femme me dit, moi, chaque fois que je vais en week-end, maintenant je vais toute seule et j'y vais sans toi, alors que tout le monde y va à deux. Et donc, il faut pouvoir voir et redimensionner notre vie d'exploitation par rapport aussi à des attentes. L'arrivée de mon frère, ça a bien fait pour moi, parce que nous pourrons partager des décisions, on va partager notre temps, on va réussir à s'organiser, peut-être à développer, pouvoir embaucher et pouvoir se libérer du temps comme dans tout type d'entreprise. Et mon frère qui a travaillé 10 ans à l'extérieur, eh bien, il a des attentes, parce qu'il a eu des attentes de salarié. Et donc, il va développer vers une entreprise, il va prendre le rythme d'entrepreneur, mais en attendant, il faut savoir regarder et faire la part des choses. Donc, c'est important de trouver des systèmes d'exploitation pour attirer des gens qui veulent, par exemple, se reconvertir ou démarrer dans une activité agricole, pour ne pas les isoler, de trouver des systèmes d'organisation collective, ce qui avait été dit précédemment, d'organisation dans du matériel, en humain, donc ça c'est pour gagner en performance, puis limiter des frais, optimiser du matériel, des forces communes de vente qui peuvent être faites, et puis des forces communes d'embauche de salariés polyvalents sur plusieurs fermes qui peuvent aider. Tout ça, ça se fait dans des systèmes collectifs. Donc, il y a une redimension de l'exploitation à voir, de la vie agricole. Alors, aujourd'hui, on peut s'imaginer un tournant avec la crise qu'on a pu voir. Les jeunes qui sortent d'école veulent aussi... Il y a une notion qui est différente. Même moi qui suis sorti qu'il y a 10 ans, on n'a pas les mêmes, intentions ni les mêmes idées, donc ça ira forcément en évoluant. Il y aura des attentes sociétales autres, mais il ne faut pas oublier notre forme de qualité. Il faut qu'on soit comme toute entreprise et comme dans toute vie de société, alors qu'on travaille avec du vivant. Donc chaque jour change, la météo n'est jamais la même, et donc que ce soit de l'élevage ou de la production légumière, c'est la lumière, on est tributaire de la météo, et aujourd'hui, il faut multiplier les activités. L'activité de monter une grande serre chez nous, ça permettrait de dire aux saisonniers, lorsque la météo est mauvaise, un autre exemple, de leur dire, écoutez, la météo est mauvaise, on ne peut pas travailler. Donc on travaillera qu'au lieu de travailler à 8 heures, on travaillera qu'à 10 heures, il s'arrêtera de pleuvoir. Comment veut-on expliquer ça à quelqu'un qui vient travailler à 8 heures? Quelqu'un vient travailler à 8 heures, il faut lui donner du travail à 8 heures. On ne va pas lui dire, tu travailleras de 10 heures à 19 heures. Et puis, tes enfants, ils se garderont tout seuls. Non, aujourd'hui, il y a des attentes sociétales, on travaille d'une certaine heure à une certaine heure, il faut pouvoir le respecter. Donc, le fait de diversifier des productions, par exemple, de monter une activité de production dans une serre, ça fait que s'il pleut, tout le monde va sous la serre, travaille sous la serre, et on prendra l'activité dans les champs après. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'on a peur de la pluie, mais c'est que parfois, les machines ne peuvent pas rentrer dans les champs. Voilà. Donc, ça, c'est des exemples qu'on peut avoir et qui nécessitent de redimensionner nos exploitations quand on embauche plus des salariés. Et bien, il faut pouvoir répondre à leurs attentes également. Je ne sais pas si c'était très clair par rapport à ça, mais c'est des exemples.
Bon, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je voulais juste dire que l'agriculture a beaucoup évolué rapidement. Elle se remet toujours en question. Elle évoluera certainement encore. Et j'ai bon espoir pour l'avenir parce que j'ai souvent des jeunes à la maison, et ils ont une vision complètement différente et nouvelle. Donc, je pense que ça suivra son cours. Voilà, je pense que beaucoup de choses ont été dites sur le sujet.
Merci. Peut-être qu'on peut passer maintenant à une phase de questions qui ont pu émerger dans la salle.
Ça sera votre micro.
Ah,
le pied, il est. Et donc, à vous la parole, je vais donner le micro à Emmanuel qui va le confier pour que vous puissiez poser vos questions.
Bonsoir. Je viens de Mère, j'étais agriculteur à Mave pendant 45 ans, également responsable de l'étranger de l'œuvre. J'ai une question à vous poser, j'en ai plusieurs, mais ça fait plus dans ces détails. Les surfaces, par exemple, et ce n'est pas un détail parce qu'on a dit tout à l'heure que le nombre d'agriculteurs diminuait et donc le nombre d'exploitations diminuait. Alors, Madame Bauer, vous avez réuni deux exploitations, ça fait combien d'hectares?
200.
Et Madame Descamps?
193.
Avec combien de vaches?
80 vaches à l'exploitation.
Alors, nous, c'était une exploitation existante, je rejoins l'exploitation qu'on a reprise en 2003, c'était, si on dans les années 70, c'était 5, quoi, effectivement.
Okay. Quelle est votre formation d'origine?
Ah, moi, je suis ingénieure en agriculture.
Ah, bon, c'était quand même une formation agricole.
Oui, oui.
Vous avez choisi d'aller sur le terrain.
Mes parents étaient agriculteurs. Mes parents étaient agriculteurs, producteurs de poireaux, justement. Et c'est vrai que mon frère, j'ai mon frère qui est installé sur l'exploitation de mes parents. Et mon mari a son frère qui est installé sur l'exploitation de mes parents.
Alors, je voulais vous dire que le métier d'agriculteur, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Ni maintenant, ni avant. C'est clair. Il faut être conscient que quand on s'installe, c'est ce que j'ai dit à mes petits cousins, quand ils avaient 2000, quand je commençais à penser à la retraite et que je commençais à penser à s'installer, allez, si ça vous plaît, si c'est ce que vous aimez, faites-le. Mais il faut savoir qu'il y a des hauts et des bas. Quand ça descend haut, dans les bas, ça tend. Zappa, j'ai une question quand même importante à vous poser. On est actuellement dans une phase complètement différente. Hein. Lors d'une présentation que j'ai faite pour l'ambassade d'Ingalit à Onzain, chez un agriculteur d'Onzain, j'ai dit que quand je m'étais installé, moi, je faisais grosso modo, et c'était le cas pour toutes les exploitations, 5-6 productions. Ça tenait sur 5-6 lignes. Hein. À l'heure actuelle, si on veut déterminer tout ce qui se fait dans la région Beauce, il faut au moins 2 pages. Alors, c'est une question que je voulais vous poser. Comment est-ce que vous abordez cette diversité des cultures? Deuxième question, est-ce que vous vous posez la question? Puisqu'on voit quand même beaucoup d'exploitations qui passent au bio. Alors, certainement, ça ne va pas se faire tout seul, c'est clair, mais c'est quand même une question qui me semble importante.
Alors, la diversité des cultures. Il y a la possibilité, effectivement, comme le dit toujours Jackie notamment, on peut tout faire en Loire-et-Cher. Il y a tout de même, alors, il est possible de tout faire, tout le monde ne fait pas tout. Hein, et on a justement, enfin, donc avec l'arrivée de la nouvelle PAC qui s'est fait un petit peu par le politique, elle insiste notamment sur les rotations, on se rend compte qu'il y a des systèmes qui sont les COMSA, où justement il y a encore moins que 5 cultures, il y en a des fois plus que 2. Donc voilà, je tempérerai, il y a certains systèmes qui sont partis quand même vers une fréquence simplification aussi. Et où effectivement après on n'a plus la rotation, et aussi parce que les marchés font aussi que des fois on n'a plus que une ou deux cultures rentables sur les marchés internationaux qui sont ceux pris par si quand vous travaillez qu'avec un seul metteur au marché, une seule coopérative qui a que des marchés sur deux cultures principales, vous êtes tenté à la suivre et à, donc aller dans le système vers lequel elle vous envoie. Donc voilà. Ce n'est pas une réalité qui a que tout le monde a une diversité de culture, même si c'est possible. La question du bio, puisque c'est votre deuxième question, si je parle pour moi concernant la filière laitière, je crois que vous n'êtes pas sans savoir que les gens qui sont. Il y a eu un engouement assez fort, effectivement, vers le développement de la production laitière bio, qui est à l'heure actuelle dans un. Face à un mur, c'est-à-dire une surproduction. Au moins plus de 20% de la production laitière bio doit passer dans ce qu'on appelle le conventionnel parce qu'elle n'a plus de marché, elle n'a pas de marché bio en face. Le prix du lait bio est même moins cher que le prix du lait conventionnel. Donc c'est vrai que malheureusement, là, ceux qui sont partis en conversion dernièrement sont vraiment partis vers un mur et vers de grosses difficultés. Donc, nous, personnellement, notre acheteur, qui est la laiterie Belle, ne nous a jamais demandé de mettre en bio parce qu'elle n'en a pas de marché. Techniquement parlant, ce serait tout à fait faisable, même si bon, je pense qu'on a les conditions pédoclimatiques qui ne sont pas idéales. Nous, à ce moment-là, l'exploitation, on n'a pas les conditions pédoclimatiques idéales, à savoir que la production bio est fortement basée sur l'herbe. Et on est plutôt sur des territoires séchants, c'est pas très facile, ou alors il faudrait l'irrigation. Enfin voilà, on n'a pas forcément tous les atouts, mais c'est faisable avec un travail, mais comme je vous disais tout à l'heure, il faut que cette orientation soit inscrite sur le temps long. Il nous faut 3 ans pour faire une vache, s'il faut réimplanter de l'herbe, mettre des systèmes d'ombrage, je ne sais pas, il faut du temps. Il faut que ce soit plus sûr et certain que le contexte actuel de la production, enfin, le contexte économique actuel de la vie. Voilà. Concernant surtout la production entière. Je ne vais pas parler de la production.
Et pour le bio en production de volaille, il faudrait de l'aliment bio et il ne s'agit pas d'aliment, je ne veux pas d'aliment bio. Et il faut aussi le déboucher. Enfin, donc, je ne vois pas comment transformer mon élevage de qualité et transformer en bio.
Comment est-ce que vous voyez, pour vous croire, hein, t'avais peut-être mal lieu, là, pour vous croire, comment est-ce que vous voyez cette évolution? En quelques années, on voit bien que ça a explosé. Il y a des firmes entières qui sont en bio. Et est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il y aura une telle pression que vous serez obligé d'y aller ou pas?
Si je peux me permettre, juste quelques éléments statistiques. En 2010, en Loire-et-Cher, il y avait 3,4% d'exploitation bio, 3,3%. Et en 2020, 8,4%. Donc, quand vous dites que la part du bio augmente, c'est vrai. Après, vous voyez que dans les explications qui vous ont été données, aujourd'hui, on se heurte à des problèmes de marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas la demande suffisante pour que tout le monde évolue vers le bio. Et on a aussi des marchés différents. L'escalope de dinde en grande surface, elle est encore demandée par beaucoup de consommateurs avec un pouvoir d'achat des fois pas très élevé. Donc, il y a face à une diversité de consommateurs, il faut que l'agriculture puisse répondre aussi
à une diversité d'offres, dont du bio, mais pas que du bio. Voilà. Et autre élément sur la qualité. Si je reprends l'exemple laitier, j'ai pas mal d'élèves en BTS. Ce sont tous des apprentis, donc ils sont chez des maîtres d'apprentissage qui ont des patrons, et j'en ai pas mal dans le secteur laitier. Ce montoir est pas mal situé aussi pour ça. Et l'évolution que j'ai vue dernièrement, qui est liée notamment à l'arrêt des quotas laitiers en 2015, c'est que jusque-là, les producteurs laitiers avaient un revenu relativement sécurisé grâce aux quotas. Ils savaient combien de litres ils devaient produire et qu'ils seraient rémunérés correctement sur ces quotas. On a arrêté, on a supprimé les quotas, les cours à ce moment-là ont diminué et il y a eu des agriculteurs du coup, qui ont arrêté l'activité laitière. Il fallait rebondir pour les exploitants, il fallait rebondir, et pour les laiteries aussi. Et du coup, sans doute Delphine pourra confirmer ce que je vais dire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer chez les producteurs qui vendent chez Bell, mais aussi chez les producteurs qui vendent notamment à la laiterie Saint-Michel. Presque tous les exploitants que je vois, la grande majorité, évoluent vers du lait produit sans OGM et avec beaucoup plus de pâturage. Et si je regarde dans les statistiques, là, toujours pareil, du Loir-et-Cher, 2020, la progression des prairies, elle était de 35 000. Alors, il y avait 28 000 hectares de prairies en 2010. Il y en a 35 000 en 2020. Ça veut dire qu'il y a plus 7 000 hectares, ça fait plus 23 % de prairies par rapport à il y a 10 ans. Et si je lis un petit peu plus dans l'analyse, clairement, ces augmentations de prairies, elles sont essentiellement sur les systèmes bovins-lait. Voilà. Donc, pour compléter, l'évolution de la qualité, elle ne se trouve pas que dans le bio, elle est aussi dans le sens de GM, de plus de pâturage et peut-être plus de traçabilité aussi dans toutes les productions qui sont faites. Valérie pourra en parler d'ailleurs sur la filière farine, peut-être. Voilà, aussi.
Ça m'appelle la segmentation. C'est ce qu'on appelle la segmentation, effectivement. Et quand je disais quelle est la demande dans la durabilité, c'est ça, c'est en fait l'étude de marché n'est pas forcément en faveur du bio, elle est en faveur effectivement de la segmentation. Et dans le domaine du lait, on s'est rendu compte que c'était bien plus des attentes effectivement sur un type d'alimentation, sur le bien-être animal, sur ce genre de notions-là. Que sur le cahier des charges de l'agriculture bio en par lui-même.
Si vous permettez, je suis pas payé par l'agriculture bio. Hein. D'accord. Bon. Mais ce qui me préoccupe personnellement, c'est plutôt le maintien ou le renouveau de la biodiversité.
Oui, mais ce n'est pas nécessairement lié à l'agriculture biologique.
Allez-y, vous pouvez avancer.
Non, et un autre point qui est important par rapport à la question posée sur si on se sent obligé de partir vers le bio, ça nous l'est demandé, certes, parfois, mais après, on est aussi des responsables d'entreprise et ça nous l'est demandé pas par nos coopératives ou par nos filières, ça nous l'est demandé. Parfois par les médias qui en parlent beaucoup et voilà. Mais ce qui est important, et moi je vois en production légumière, ce qui est déjà important, c'est de réussir à être autosuffisant français. Aujourd'hui, en légumes, on a perdu 30% de parts de marché depuis les années 70. Donc si on continue à aller dans ce cycle-là, ces productions-là, dans plusieurs dizaines d'années, on sera beaucoup plus importateur qu'exportateur. Donc après, il faut savoir ce qu'on veut, si on veut du français produit en France ou si on veut du légume ou des fruits produits à l'étranger et importés en France. Et c'est ces sujets-là qui sont importants, et moi, c'est ce qui me motive en ce moment dans la production que je fais, c'est de voir comment se battre pour que ça reste des productions qui soient ancrées sur le territoire français.
On va passer aux questions.
C'était une question au sujet de la production de cornichons. Je voulais vous demander quelle surface vous exploitez aux cornichons et comment vous recrutez vos saisonniers. Et matériellement, est-ce que vous devez les loger, les nourrir? Comment ça se passe? Parce que tout à l'heure, il me semble que vous avez parlé de 35 saisonniers, si j'ai bien compris. Et ça m'impressionne beaucoup. Enfin, c'est juste par curiosité. Merci.
Alors, en production de cornichons, c'est sur des surfaces relativement restreintes, étant donné que c'est 1 hectare pour nous. Et 1 hectare, c'est 15 cueilleurs par jour pendant 2 mois. Donc, si on rapporte en heures, 1 hectare, c'est 3200 heures de main-d'œuvre pour la campagne. Donc, du 15 juillet au 30 août. Donc, c'est des saisonniers qui sont spécialisés dans la cueillette, qu'on embauche, qui sont souvent de nationalité étrangère, parce qu'ils ont choisi de faire de la saison de leur métier. Et ça, c'est important pour nous et c'est vraiment une valorisation à ce niveau-là. Ils ont choisi d'en faire leur métier et d'être spécialisés là-dedans. Donc, c'est des saisonniers qu'on loge sur l'exploitation. Ils ont des logements de fonction à disposition et ils se nourrissent eux-mêmes. Et pour la production, pour la production de cornichons, et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu.
Merci. Écoutez, moi je pose une question tout à fait au rapport, je ne sais pas du tout le milieu agricole. Alors, j'ai acheté du lait tout à l'heure et j'ai vu qu'il y avait du lait vendu au juste prix. Est-ce que c'est l'arnaque ou est-ce que c'est quand même bien? Alors, j'avais acheté mon lait vendu au juste prix, mais est-ce que c'est une façon de faire de la pub et que je me suis fait avoir? C'est complètement idiot. Merci de m'avoir.
Et puis, déjà, vous avez regardé l'étiquette, très bien. Oui,
mais j'ai une deuxième question, ça c'est plus quand même pour l'évolution de notre... Est-ce que vous allez aussi vous mettre aussi à faire des légumineuses, et des lentilles, des haricots, qui pourraient... Je ne vais pas du tout remplacer la viande, j'aime bien ça aussi, et le lait, bien sûr, mais favoriser l'alimentation de protéines végétales.
Donc, d'abord, je vous encourage à lire les étiquettes. Effectivement, c'est une source d'information énorme. Donc, normalement, sur la bouteille que vous avez achetée, il y a certainement soit un QR code ou un site internet qui va vous expliquer ce que ça veut dire derrière. Et quand on vous dit juste rémunéré, c'est très, très suivi en général par l'État, la répression des fraudes, pour savoir ce que ça veut dire. Et normalement, effectivement, ça veut dire quelque chose. Cette marque-là, je ne connais pas, mais par exemple, c'est qui le patron, hein. Effectivement, derrière, il y a une vraie démarche, il y a un vrai calcul de la juste rémunération, c'est-à-dire un calcul des coefficients. Il y a autant pour le distributeur, autant pour l'industriel, autant le transport, autant le CDA, et donc il doit rester autant. Donc il faut la petite addition et ça doit faire un prix minimum. Voilà, ça c'est. Voilà, la maîtrise en immobilier notamment fait ça, c'est vrai, c'est réel. Bon, après, quand c'est en marque de distributeur, eh bien, écoutez, j'espère que les distributeurs jouent le jeu, mais normalement, sachez que moins de 80 centimes un litre de lait, c'est pas normal. Voilà, c'est des références à avoir. Et c'est vrai que l'un des gros drames de notre société, c'est qu'on ne sait plus la valeur des choses. Et là, c'est vrai que c'est affreux. Et c'est vrai que je crois que professionnellement parlant, il faut qu'on mette au jour la réalité des choses. Hein. On a beaucoup entendu parler de la baguette à 29 centimes. Enfin, il faut qu'on réussisse à avoir quelle est la réalité des choses. Imaginez le prix du gasoil à 1,60 €. En tout cas, regardez sur l'étiquette, les QR codes, etc. et vous aurez l'information. Les légumineuses, donc. Nous, en production laitière, on en produit depuis toujours. La luzerne est une légumineuse, le trèfle, enfin, voilà. Les légumineuses fourragères, on en fait depuis longtemps. On parlait plutôt des légumineuses à destination humaine. C'est difficile, c'est des cultures pas très faciles à produire. On a la lentille du puits, enfin, on sait produire des légumineuses en France. Vous savez bien que l'être humain n'a pas les
capacité digestive hein, de se nourrir à partir de protéines végétales. C'est pour ça qu'on se nourrit de protéines animales. Donc, quand on parle d'un steak végétal, ce n'est pas du tout un steak, comme vous le savez, comme tout le monde. Voilà. Alors, ce qu'on peut reprocher quand même à ce qu'on appelle un steak végétal, c'est que c'est un produit de l'industrie agroalimentaire ultra transformé. Je pense qu'effectivement, je respecte les gens qui veulent manger végétaux. Acheter 500 grammes de lentilles du puits, c'est excellent. Acheter un steak végétal fleurimichon qui a été additionné de soja agar agar, je ne sais pas quoi. Voilà, on sera dans l'incohérence. Voilà. Donc après, quand il s'agira de produire ces légumineuses, bien, je crois que on y arrivera. Pour le moment, malheureusement, c'est beaucoup de soja et donc beaucoup d'importations. Souvent, le soja n'est pas forcément souvent en GM. Ça change aussi. Et puis, c'est les étiquettes.
Je vais juste compléter sur les protéines. C'est une vraie préoccupation. Et c'est notamment prévu, notamment aussi dans, dans la PAC, notamment la nouvelle PAC. Donc, la PAC, la politique agricole commune, elle a été mise en place après la guerre et au départ, c'était pour soutenir le revenu des agriculteurs tout en facilitant l'accès à une alimentation pas chère pour les consommateurs. Ça, c'était l'origine de la PAC. Le soutien des prix pour les agriculteurs, mais des prix bas pour les consommateurs. On n'est plus du tout sur cette PAC-là. Aujourd'hui, on est sur une PAC principalement environnementale. Et notamment, là, dans les évolutions, il y a ce qu'on appelle le plan protéines avec l'objectif de développer effectivement plus d'autonomie alimentaire sur les élevages et aussi plus d'alimentation à base de légumineuses, enfin de lentilles, etc., pois chiches, dans l'alimentation des humains. Donc, il y a effectivement un petit peu des aides qui sont mises en place pour ça, qui ne sont pas faramineuses hein, quand on regarde ce que ça représente sur les exploitations. Ce n'est pas faramineux du tout. Mais ça fait évoluer peut-être aussi les mentalités. Alors, avec ce que Delphine venait bien de dire, c'est que techniquement, ce n'est pas si facile que ça. Voilà. Mais c'est des choses qui sont en cours d'évolution, malgré tout, et qui font partie des réflexions qui sont en cours.
J'ai bien lu qu'on était dans une réflexion autour de l'espérance. C'est vrai que là, depuis quelques minutes, les échanges me tirent un peu vers le bas et je suis. Est-ce que finalement, on n'est pas tous un peu prisonniers des systèmes économiques, que ce soit vous, les producteurs, ou que ce soit nous, les consommateurs? Tout à l'heure, c'est vrai que d'entendre dire que les escalopes ou dindes en supermarché sont très demandées, donc il faut continuer d'en produire. C'est pas pour ça, le lien a été raccourci, j'ai bien compris, hein, que effectivement, produire par exemple de la viande bio, il n'y a pas assez de demandes. Il n'y a pas assez de demandes. On a l'impression, en fait, quand on mange du bio, c'est parce qu'on a beaucoup d'argent en tant que consommateur. Et il y a quelque chose qui me gêne. Comme si on installait en fait un système à deux vitesses, en tout cas en tant que consommateur. Et du coup, les producteurs sont aussi prisonniers de ce système économique. Et qu'effectivement, là, j'entends beaucoup parler de système économique, cette échelle d'entreprise, avec effectivement l'exploitation, elle fonctionne. Et j'aimerais bien vous entendre parler de la terre, parce que c'est vrai que j'ai bien compris qu'il y avait une réalité de gestion et de faire en sorte que l'exploitation fonctionne. Mais en tout cas, moi, la vision que j'ai de votre métier, c'est effectivement, ça a été un peu abordé, c'est un métier en lien avec la terre, hein, la nature. Voilà, donc c'était plus des réflexions que des questions.
Pardon, vas-y. Je ne sais pas si certains d'entre vous regardent l'émission Manger, c'est beauté. Voilà, je pense qu'on est prisonnier du modèle économique, je l'entends. On est prisonnier d'un marché. Et effectivement, on peut avoir l'espoir, c'est que le marché va évoluer en fonction de la prise de conscience de chacun, de ce qu'il fait, son acte d'achat, son acte alimentaire, induira la production en face. Voilà, je crois que c'est plutôt la chose la plus importante. Concernant la terre, c'est naturellement notre outil de travail. C'est outil, effectivement, c'est un mot qui peut paraître. Nous tous avons hérité de la terre, qui est un bien commun. La terre, l'air, l'eau, hein, il n'y a pas effectivement que la terre, tout ce qui est climatique autour de nous, le climat. Hein. On l'a hérité en commun, on doit l'entretenir. La notion, on est un peu tous des fermiers, la notion de fermage, ainsi que donc on a une carrière de 45 ans. On sait bien quand on s'installe, hein, on a un bail. Et puis avec un état des lieux et un état des lieux de sortie, non, au bout des 45 ans, j'imagine que c'est ce que vous avez fait. Ouais. Voilà, donc au-delà de cet état des lieux, on prend possession. On arrive sur une terre, on veut l'entretenir en bon père de famille et la restituer au bout des 45 ans et l'entretenir entre temps. C'est des cycles naturels. Et c'est vrai que là où on peut avoir un espoir, c'est qu'effectivement, on améliore son taux de matière organique, on améliore sa texture, on améliore des potentiels agronomiques, on améliore pour que la terre puisse toujours répondre aux besoins qu'on lui demande. À un moment, on aura planté un arbre, on aura planté une vigne, on aura planté une serre, on aura planté une fraise. C'est ça aussi, finalement, ce qu'on nous demande, c'est de faire fructifier cette terre. Et donc, ce qui serait effectivement dramatique, ce serait de se dire la nature, elle toute seule, va résoudre les problématiques, parce qu'on se rend bien compte. Vous le disiez tout à l'heure, on ne fait plus rien, c'est un enfrichement, c'est la faune, c'est la faune sauvage, c'est tout ce qu'on peut imaginer, et c'est la disparition de l'activité économique autour. Je crois qu'il ne faut pas voir l'activité économique comme un poison, mais plus comme un cercle vertueux à porter à une terre nourricière qui continue à se nourrir. La vie donne la vie. Voilà, je pense que c'est réellement comme ça que moi, je vois mon métier. C'est à créer de la vie pour redonner de la vie. Enfin, je crois que c'est le cycle de la vie qui est important. Et tout ça, bien entendu, passe par la terre. Voilà.
Alors, par rapport à votre réaction, il y avait une réalité économique pour vivre, pour faire vivre aussi nos familles et notre fonctionnement qu'on a tous. Et il y a aussi une réalité en dehors d'une réalité économique. Je pense que j'aurais pu choisir un autre métier aussi pour faire vivre ma famille, mais aussi une réelle conviction. Et cette conviction, elle est pour moi dans la filière que je fais. C'est pour ça que je suis peut-être passionné maintenant par les légumes, ce qui n'était peut-être pas mon cas avant. C'est de produire en qualité et en quantité. Et en quantité pour nourrir des hommes et les nourrir de façon suffisante. Et l'intérêt, c'est de faire perdurer aussi ces choses-là, parce que peut-être qu'en France, on a tout en quantité suffisante, mais il y a aussi d'autres régions et d'autres pays, d'autres continents qui n'ont pas tout en quantité suffisante. Et ce qu'il faut avoir en notion, c'est que l'ensemble de la Terre a besoin d'être utilisé de manière raisonnable pour pouvoir nourrir aussi tout le monde. Et c'est un peu ce que je vois dans nos productions où on a un risque d'importation, alors que il faut pouvoir continuer de faire perdurer et produire nous-mêmes chez nous, quoi. Et ça, pour moi, c'est un beau message positif de notre métier et de ce qu'on doit en faire. Donc oui, il y a une réalité économique, il y a aussi une réalité de pouvoir tout exploiter. Je suis heureux que mon frère revienne sur l'exploitation,
pour qu'on puisse peut-être dimensionner l'exploitation différemment pour cultiver les terres en friche qui sont laissées en friche depuis 15 ans par nos voisins, et qu'on puisse créer de la vie, créer de l'emploi en rural, des gens qui s'implantent pour y travailler et pour produire de l'alimentation pour tout le monde.
Alors moi j'ai deux questions là qui viennent de nos amis qui nous écoutent sur Zoom. Donc c'est deux personnes différentes. Il y en a une première. En quoi l'encyclique Laudato Si a-t-elle interrogé vos pratiques et vos modes de vie et l'impact qu'ils ont pu avoir sur vos parents? Et puis une autre question un peu différente. Est-ce que vos syndicats et la politique agricole française ne doit-elle pas vous accompagner pour une agriculture plus respectueuse du vivant et de la ressource en eau? Voilà, deux questions bien différentes, mais je les situe tout de suite.
Alors, si vous me permettez, je veux bien répondre à la question sur la Laudato aussi, parce que c'est un sujet qu'on développe dans un mouvement dont je fais partie, qui est entrepreneur et dirigeant chrétien, et c'était le thème de l'année. Et alors que j'ai vu ce thème-là, je me suis dit, bon, comment le voir? Et dans l'ensemble de notre groupe, ce qui a été intéressant et ce que j'ai vu, moi, c'est de créer dans cet ordre cyclique, donc c'est de créer du lien entre les gens, en fait. Donc, c'est pas lié que... Enfin, c'est de créer du lien entre les gens. Et moi, ce que je vois dans cette création de lien entre les gens, c'est de conserver une dynamique rurale dans des zones qui se perdent. Et donc, ma place dans l'agriculture y est complètement. Donc, il y a l'aspect environnement dans Laudato aussi, mais ce qui est le plus important, qu'on a tous constaté, c'était le lien entre les hommes et l'amour qu'on peut avoir pour les autres et tout ça. Donc après, ça se dispatche en différentes, on pourrait dire, différents points, mais il y a ça. Et donc, dans mon métier, ce que j'ai essayé de voir et comment je pouvais le mettre en pratique, là, c'était de créer du lien dans notre monde rural où la population a parfois tendance à diminuer. Ben non, faut conserver, créer du lien. Par contre, je n'ai pas répondu à la deuxième question.
La deuxième question, je vous la redis. Est-ce que vos syndicats et la politique agricole française ne doit-elle pas vous accompagner pour une agriculture plus respectueuse du vivant et de la ressource en eau?
C'est vrai que José disait tout à l'heure, la politique agricole française n'existe pas. Elle est européenne, hein, ce qu'on appelle la PAC. La première et presque unique politique vraiment européenne a été agricole, dès la création de l'Union européenne, comme le charbon et l'acier, etc. Donc, c'est vrai qu'on dépend plus d'une politique européenne qu'une politique française. Il y a quelques adaptations françaises assez à la marge, notamment les PMA, si ça vous parle, enfin, des choses comme ça, qui seraient orientées par les régions. Bon, voilà, c'est majoritairement des politiques européennes. Alors, non, il n'empêche qu'il y a des Français. Alors, les politiques doivent-elles nous accompagner vers la plus respectueuse? La nouvelle PAC, on est dedans. Comme le disait tout à l'heure Marie-Josée, elle est beaucoup plus orientée effectivement sur le Green Deal, hein, donc une agriculture verte. Alors, c'est toujours pareil avec la politique, hein, c'est des grands schémas, c'est des chiffres, c'est des statistiques, c'est des pourcentages, etc. C'est une inclinaison vers effectivement la production légumineuse, vers les rotations, c'est-à-dire ne plus vraiment bannir les monocultures. C'est effectivement faire des paiements pour tous les éléments structurants du paysage. Effectivement, maintenant, les agriculteurs peuvent recevoir quelques subsides pour préserver des arbres remarquables, pour préserver des points d'eau, des choses comme ça, des éléments topographiques qui maintenant seront à avec de l'aide PAC, si vous voulez, de l'aide européenne, donc pas uniquement de l'aide à une production, mais donc après cette prise en compte d'éléments de paysage, par exemple. Enfin, mes collègues, est-ce que vous pensez à autre chose? Moi, je suis sur tout ça. Donc voilà, la prochaine PAC, vous vous souvenez qu'avant, il y a eu des époques de jachère ou des choses comme ça. Hein, maintenant, effectivement, on est plus vers une PAC qui a une orientation plus verte. Donc c'est de l'orientation, c'est un peu long terme. Voilà. Vous allez certainement entendre parler dans les médias, c'est la nouvelle PAC qui arrive. Pour nous, c'est des formulaires différents, des logiciels différents pour faire. Mais voilà, l'activité. Voilà.
La PAC, ça ne fait pas tout. Mais c'est vrai quand même que l'orientation environnementale, elle n'est pas juste là d'aujourd'hui. Elle date depuis 1992. C'est le premier tournant environnemental de la PAC. Et depuis, il y a quand même des réformes à peu près tous les 5 ans. Où à chaque fois, il y a des mesures de plus en plus environnementales. Et la réflexion, elle est là, présente. Je pense que c'est une préoccupation aujourd'hui de quasiment tous les agriculteurs, de se dire comment je fais pour produire différemment, avec moins de phyto, en préservant la vie des sols. Il n'y a pas de solution toute faite. Il y a beaucoup de recherches, de recherches appliquées aussi, c'est-à-dire que les agriculteurs eux-mêmes sont obligés parfois de faire leurs propres essais. Et donc, tout ça, c'est la recherche l'INRA, etc., y contribue un peu. Peut-être que certains disent dans leurs analyses qu'on a pris du retard par rapport à ça. En tout cas, il y a une nécessaire adaptation et réflexion qui doit allier le travail des agriculteurs appliqués, etc., et la recherche. Ça, c'est un point important. Il y a un autre point sur les politiques quand même plus locales. Ça fera partie de la prochaine conférence. C'est plus objet de la prochaine conférence qui est prévue le 1er mars. C'est le rapprochement entre les agriculteurs et les consommateurs au travers, par exemple, des plans d'alimentation territoriaux et de la loi Egalim en France. Avec toutes les difficultés que ça peut présenter, on voit quand même le développement des circuits courts, de magasins producteurs, sur moi, il y en a deux, là, qui ont été créés récemment et qui fonctionnent, a priori, plutôt pas mal. Il y a plein d'initiatives qui vont aussi dans ce sens, et tout ça contribue à une relocalisation de la production, à une recherche qui a été évoquée tout à l'heure par Benoît de souveraineté locale ou territoriale, qui fait que on va limiter les transports, parce que faire venir des tomates, même bio, de l'autre bout de l'Espagne, est-ce que c'est vraiment durable? Ça pose, voilà, il faut peut-être mieux des tomates un petit peu traitées ici. Et pas forcément beaucoup traité. Il faut savoir aussi que les agriculteurs ne traitent pas pour le plaisir de traiter. Chaque fois qu'on traite, il y a un coût. Et un coût qui est de plus en plus élevé, puisqu'il y a de moins en moins de molécules autorisées, qui sont de plus en plus chères. Donc, quand c'est fait vraiment de la façon la plus... est-ce que je le fais parce que je n'ai plus le choix de le faire, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui. Le traitement, c'est le moins possible de traitement. Et je pense que dans l'agriculture, je suis sûre que dans la viande, quand Valérie dit « je fais de la viande de qualité dans mon atelier standard », je suis sûre qu'elle utilise très peu d'antibiotiques, par exemple.
Non, les antibiotiques, j'en utilise, je touche du bois. Évidemment, si je vois mes animaux malades, je ne vais pas les laisser mourir. Je travaille beaucoup avec les plantes. Alors, je ne suis pas en bio, ça ne s'appelle pas comme ça. L'alimentation n'est pas bio. Mais pour soigner les animaux, je travaille beaucoup avec les plantes. Mon vétérinaire m'incite, je travaille avec lui. Et sur cette voie-là, les antibiotiques, j'en mets pratiquement jamais. J'en mets que si. Enfin, cette année, je crois que j'en ai pas mis. Mais j'en mets que si vraiment c'est vraiment nécessaire. C'est pas un plaisir de mettre des médicaments à outrance, c'est pas un plaisir, c'est pas absolument pas. Je consomme la viande que je produis, donc je veux qu'elle soit la plus saine possible.
et elle est la plus saine possible. Et nous avons énormément de contrôle sur les chats de l'abattage. Tout au long du parcours de la vie d'un oiseau, nous avons des contrôles. Nous sommes obligés de rendre des comptes à peu près à tout le monde. Donc, on fait attention à ce qu'on fait. Nous, les antibiotiques, on n'en utilise pratiquement jamais.
La dernière, moi je vais en mettre plein dedans. Ça fait plusieurs fois que je rencontre des agriculteurs et souvent ils disent qu'on est mal aimé par les consommateurs, par le public. Mais il y a une incompréhension. Je vais juste deux témoignages. Il y a, pour préparer ma phrase, j'ai réalisé il y a un demi-siècle. Pendant une dizaine d'années, tous les étés, je ramassais des pêches et des grignons chez mon oncle. Il y a quelques années, mais beaucoup moins qu'un demi-siècle, il y a à peine 10 ans, je m'occupais d'un camp d'adolescents. Je suis allé acheter des pêches et des grignons dans un Intermarché. Il y avait, donc il fallait que je compte le nombre de fruits, donc j'ai pris 6 sacs de 8 pêches, 6 sacs de 8 grignons. Les 6 sacs de pêche à moins de 12 centimes, ils étaient tous au même prix. Les 6 sacs de grignon, à moins de 15 centimes ou l'inverse, ils étaient tous au même prix. Ce qui voulait dire que les 48 fruits que j'avais achetés faisaient exactement le même poids. Il y a un demi-siècle, chez mon oncle, je n'aurais jamais vu ça quand je remplissais les plats. Il y a 2 ans, mon fils a travaillé en Australie. Il a ramassé des fraises. Donc, il avait des barquettes de fraises, il mettait 4 fraises dans la barquette. C'est pour vous dire la taille des fraises. Une fois par jour, il devait sortir des champs parce qu'il y avait un avion qui passait des traitements sur les fraisiers. C'est ça, nous, les consommateurs, qu'on ne veut pas. Moi, je veux manger des fraises normales, pas des fraises. Après, ce que je ne comprends pas, Delphine, tout à l'heure, tu nous as dit, les gens demandent d'acheter le moins cher. Apparemment, les producteurs de lait bio, ils s'en sortent pas. C'est le lait le moins cher, ils n'arrivent pas à le vendre. Il y a une illogique là. C'est pas logique. Donc ça veut dire le problème, c'est pas vous les producteurs, c'est pas nous les consommateurs, ce sont les intermédiaires, c'est le système. Parce que si le lait est pas cher, c'est ce que veulent les consommateurs, qu'on prend le moyen. Donc ils devraient acheter du lait bio parce qu'il est moins cher. Sauf que dernier exemple, dans le même Intermarché, la semaine suivante, il y avait une promotion de concombres. Donc, je me suis dit, je vais acheter des concombres pour les jeunes. À l'entrée, il y avait marqué un concombre hollandais, 1 €, enfin, c'était le prix, hein. 2 concombres français, 2 €. Donc, j'appelle le responsable, je lui dis, je voudrais 10 concombres français. Il me dit, mais vous en prenez 10, 10, ça lui triple de 2, donc il n'y a pas de problème. Et je lui demande comment je fais pour savoir dans mes 10 concombres s'il n'y en a pas un hollandais puisque c'est le même plat. Mais non, c'est père, donc c'est français. Je lui ai dit, si j'en prends 11, il y aura 10 français et un hollandais. Il dit oui. C'est de moi, quoi. Et c'est du consommateur. C'est ça le problème. Moi, je ne crois pas que ce soit vous le problème. Ce n'est pas nous le problème. Ce sont quand même les intermédiaires. Quand on nous dit qu'on aime bien les fruits bien rouges, je n'ai jamais demandé des fruits rouges. Je mangeais des fruits.
Oui, je pense que le problème encore et toujours, c'est de savoir aussi quels sont ses droits et ses devoirs. Et à la limite, quand on voit ce genre d'aberration, on ne va pas dans ce magasin-là. Ou alors on le fait savoir au chef de rayon. Ou alors, voilà, je crois que c'est ça aussi, l'esprit citoyen, c'est de remonter ça. C'est effectivement de ne pas faire le petit mouton. Je rejoins tout à fait, quand on se sent trop pressé par le monde économique, effectivement, c'est de réussir autant que possible à ne pas faire le petit mouton, donc à faire des initiatives, voilà, excellent, comme se reprendre la main sur le commerce. C'est le cas des producteurs locaux qui reprennent la main sur le commerce. C'est effectivement être très acteur dans nos filières pour devoir reprendre la main sur nos filières. Mon mari est responsable professionnel, voilà, on intervient auprès de nos laiteries aussi. Enfin, voilà, c'est effectivement chacun à sa place, dans son endroit. Et effectivement, ce qui peut aussi nous faire très mal, c'est les médias. qui aussi monte en tête d'épingle des choses non vérifiées, non statistiques, ou vraiment monter en tête d'épingle la peur ou les choses. Si on peut réussir peut-être à conclure, et peut-être conclure de façon chrétienne, c'est aimons-nous les uns les autres, faisons extrêmement l'effort de comprendre. Effectivement, si on lit les évangiles, il y a quand même plus d'un passage d'évangile où le comportement même du Christ était étonnant, mais il est allé à la rencontre, à la recherche, à la compréhension. Et effectivement, quand les marchands du temple ont fait n'importe quoi dans le temple, il a été capable de dire aussi et de renverser les étals des marchands du temple. Je vous invite pas à renverser toutes les étals d'un marché. Non, mais je dis que c'est des marchands du temple. Enfin, ouais. Non, voilà. Blague à part, je crois, voilà. Des réunions, par exemple, comme ce soir, c'est aussi, voilà, c'est tout ça, c'est d'être dans le dialogue et dans l'amour des uns des autres. Je pense. Alors, il est des fois pour nous aussi, des fois difficile de parler au nom de tout le monde, parce que dans toute profession, chez tout consommateur, chez tout producteur, il y en a qui ne sont pas nécessairement comme il faudrait se comporter, mais autant croire qu'en tout cas, ce n'est pas la majorité. Et restons dans l'espoir de rester vivants, de rester attentionnés et de rester à nous aimer les uns les autres, tout simplement.
Je voulais dire aussi, faites-nous confiance, n'ayez pas peur, nous aussi, nous avons des enfants, nous tenons à notre santé, donc faites-nous confiance.
Peut-être que Louis veut aussi donner sa petite
voix de conclusion.
Non, parce que j'étais assez en accord avec les autres conclusions qui ont été données. J'avais noté en conclusion en lien avec le thème une diversité à préserver, ça veut dire plein de choses. C'est déjà qu'on est dans une zone, dans une région qui est déjà diversifiée et donc à maintenir. Donc on nous parlait tout à l'heure des multiplicités de cultures qu'on pouvait faire. On en fait déjà beaucoup et il faut savoir les maintenir et continuer de les produire localement. Et on parlait de, pour rebondir à la question que vous avez posée sur les intermédiaires, donc c'est les intermédiaires, parfois il faudrait les court-circuiter, mais parfois on en a aussi besoin, c'est juste qu'il faudrait que tout le monde ait une éthique et prendre sa part du gâteau, ça peut être tout à fait concevable. Après il faut savoir la mesurer, cette part, voilà, parce que de temps en temps, pour des besoins pratiques, il y a aussi une nécessité d'intermédiaire, mais il faut savoir comment cette part puisse être prise, parce qu'un agriculteur, parfois, qui a une surproduction de frais ou d'autres choses, et bien, l'intermédiaire est capable de savoir le prendre et de savoir la vendre aussi derrière, ce que nous, on ne serait pas capable de faire. Parce que quand on fait des productions dans un bassin, parfois il faudrait savoir se lever la nuit pour manger les productions qu'on fait si on voulait les consommer localement. Et du coup, l'intérêt de parfois les intermédiaires, c'est de pouvoir les vendre dans des régions qui n'en produisent pas. Mais je reste d'accord avec vous, c'est-à-dire dans la mesure du raisonnable.
Merci Louis. Vous m'avez coupé l'air sous le pied. En fait, je pensais aimer vous les uns les autres, donc il faut aussi aimer les intermédiaires. Parce que le danger qu'on avait, c'est ça y est, on a trouvé le bouc émissaire. On a trouvé le fautif. Hein. C'est l'intermédiaire. Non, les intermédiaires, ils sont nécessaires. Hein. Moi, je suis petit-fils de commerçant. Les intermédiaires sont absolument nécessaires, mais comme l'a bien dit Louis,
il y a ce qu'on appelle le partage de la valeur ajoutée. Et dans le cadre du partage de la valeur ajoutée, il faut que chacun prenne sa juste part. Enfin,
l'initiative, par exemple, tout à l'heure, la bouteille du lait, c'est ce genre d'initiative quoi, qu'il faut. Ah, voilà, c'est l'initiative, madame, de votre bouteille de lait, c'est voilà, ce genre d'initiative qu'il faut avoir sur le produit.
Il faut que la personne ait du lait,
Oui, mais pas tout ça.
Alors après, il faut. Qu'est-ce que le juste prix?
Et voilà.
Oui, alors ça revient au commerce équitable. Alors justement, les intermédiaires, on en parlera sans doute un petit peu à la prochaine fois, puisqu'on a gardé la fiche là, vers de nouvelles relations ville-campagne. Et relations ville-campagne veut dire intermédiaire. Hein. Alors, bien sûr, il y a des circuits courts. Sur Blanc, on connaît les magasins des producteurs, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des commerçants. Comme tous les autres commerçants qui revendent les produits en l'état, comme on dit. Donc, vous êtes invités aussi nombreux, peut-être même plus nombreux, à venir le 1er mars. Alors, je tiens à remercier quand même les trois professionnels, les trois agriculteurs qui sont venus, parce que vraiment, on a eu l'impression d'être rentrés un peu chez vous, d'avoir compris quelles étaient vos préoccupations. Et puis on découvre avec stupéfaction, ben oui, mais ce sont des indépendants, ces gens-là. Ce n'est pas des salariés. Et donc, ce n'est pas la même logique. Et ça, il y a des nécessités. Et bien aussi, relever l'aspect vie, qualité de vie que vous avez bien mis ça en avant. Et puis aussi, vous n'êtes pas des destructeurs de la nature, en tout cas, vous avez bien défendu ça.